explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
Le 22 juin 1581, Montaigne, au pied de son château, pas très loin de Bordeaux, enfourchait son cheval et se lançait dans un long périple à travers l'Europe pour gagner Rome. 440 ans plus tard, le philosophe et écrivain Gaspard Koenig a décidé de refaire le même parcours, lui aussi, à cheval. Une idée qui répondait à un besoin urgent de se sentir libre, de voir du pays et d'aller à la rencontre des autres. Ainsi, en juin 2020, peu après le premier confinement et avant le deuxième, l'écrivain a profité de l'éclaircie pour prendre la route. Avec sa jument Destinada, il a parcouru 2500 km en 5 mois. Parti du Périgord, il est passé notamment par le Limousin, la Champagne, l'Alsace et la Bavière avant de rejoindre la place Saint-Pierre en traversant les Apennins et la Toscane. Tout au long de son parcours, le philosophe, devenu vagabond, a toqué aux portes pour trouver gîte et couvert. Ses rencontres et ses observations ont nourri sa réflexion et ont été l'occasion de renouer avec certains thèmes chers à Montaigne, comme la relation entre l'homme et l'animal, l'art du dépouillement ou encore la diversité des cultures. Gaspard Koenig raconte son périple dans un livre intitulé « Notre vagabonde liberté » qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Cet après-midi, il nous emmène à cheval à travers la France, l'Allemagne et l'Italie sur les traces de Montaigne. Pour nous accompagner dans cette chevauchée, à la réalisation Stéphanie Texier, Claire Tessert pour la préparation et à la technique Rémi Sistiaga. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Bivouac. Daniel Fievé.
Le voyage me semble un exercice profitable. L'âme y a une continuelle exercitation à remarquer les choses inconnues et nouvelles. Et je ne sache point meilleure école, comme j'ai dit souvent, à façonner la vie que de lui proposer incessamment la diversité de tant d'autres vies, fantaisies et usances et lui faire goûter une si perpétuelle variété de formes de notre nature. Le corps n'y est ni oisif ni travaillé, et cette modérée agitation le met en haleine. Je me tiens à cheval sans démonter, tout coliqueux que je suis, et sans m'y ennuyer, 8 et 10 heures.
Un extrait des Essais de Montaigne, lu par Daniel Mesguich. Bonjour Gaspard Koenig.
Bonjour.
Le voyage à cheval, un exercice profitable, nous expliquait Montaigne. 400 ans après lui, vous en êtes tout autant convaincu?
Oui, j'ai écouté avec émotion ce texte de Montaigne parce que il dit tout. Et je trouve que aujourd'hui, on voyage souvent sans voyager. En fait, on se déplace, on atterrit dans des endroits et on retrouve un peu les mêmes décors. On prend les mêmes voitures, on est dans les mêmes hôtels, on parle quelquefois la même langue. Et le voyage de Montaigne, c'est la manière de voyager de Montaigne. C'est d'aller en profondeur dans les pays, de s'autoriser le détour, l'aléa, dans l'écriture littéraire, comme dans la manière de traverser les territoires. Et c'est aussi donner toute son importance au moment présent. C'est vraiment ce que nous dit ce texte. C'est pour ça que le corps est toujours en éveil. C'est pour ça que, de manière tout à fait fascinante, on ne s'ennuie pas alors qu'on est déconnecté et qu'on traverse, enfin qu'on marche sur les chemins. En effet, 8 heures par jour, j'avais à peu près le même rythme. Parce que quand on arrive à se passer, à se défaire de l'idée d'objectif, de destination, de but à atteindre, parce qu'on a 5 mois devant soi, et qu'après tout, si on n'arrive pas à Rome, c'est pas grave, et que la destination, c'est le prétexte, et que ce qui compte, c'est le chemin lui-même. On apprend beaucoup plus sur soi-même, mais aussi sur son environnement. On voit davantage de choses, d'ailleurs Montaigne le dit, on voit mieux à cheval, d'abord parce que tout simplement, matériellement, on est plus en hauteur, parce qu'on voit mieux les animaux, le cheval couvrant l'odeur de l'homme qui est un prédateur, et ben on a davantage accès aux hôtes de la forêt ou de la nature, aux biches, aux écureuils qui viennent beaucoup plus près que quand on marche à pied. Et on a aussi accès aux gens parce que le cheval éveille tout de même la sympathie.
Ouais.
Souvent on est dans le besoin, donc c'est non seulement la sympathie mais aussi la générosité. Et on fait constamment des rencontres, on est constamment en train de parler, de demander de l'aide.
Ouais, voilà. C'est ce que vous étiez venu chercher. Hein. D'ailleurs, il y a un extrême contre-pied dans ce voyage au précédent, la grande enquête que vous aviez faite à travers le monde, dans la Silicon Valley, sur l'intelligence artificielle, sur les algorithmes. Là, on est dans un tout autre univers et dans une toute autre démarche.
Exactement, j'avais voulu faire l'inverse absolu de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire telle qu'elle est commercialement utilisée aujourd'hui, un univers qui est tout de même de plus en plus normé, où ce qui compte, c'est d'arriver, où on prend toujours le chemin le plus court dans les trajets comme dans la vie, et où, au fond, nos comportements sont de plus en plus normés, voire manipulés. Et j'avais envie de faire quelque chose qui était exactement l'inverse, qui réintroduisait une grande part de hasard, qu'on ne peut pas prévoir. Et c'est ça qui est formidable dans le voyage à cheval aujourd'hui, c'est que comme personne ne le fait, rien n'est organisé autour de ça. Et donc, sur un chemin, on peut avoir une barrière infranchissable. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'énerve en se disant « Ah non, c'est pas possible, je vais devoir faire une heure de détour ou deux heures de détour. Ah là là, c'est quel cauchemar !» Mais si on commence comme ça, en fait, on n'avance pas, on est mort. Enfin, on peut pas voyager dans cet état d'esprit. Et donc, ça apprend beaucoup une forme de stoïcisme dont se revendiquait Montaigne, qui est que les circonstances extérieures, au fond, influent assez peu sur notre bien-être. On dit « Ah bah oui, on va faire une heure de détour. Ouais. Ah bah c'est pas grave, on va peut-être trouver des choses intéressantes à voir, on va peut-être faire d'autres rencontres.
Voilà. » En son temps, pourquoi Montaigne avait-il fait ce voyage?
Alors,
très long voyage, hein, 2500 kilomètres, faut voir à l'époque, hein, plus d'une année hein, sur la route, sur les chemins.
Alors il allait quand même plus vite que moi, parce que à l'époque les chemins étaient faits pour les chevaux, et donc il pouvait faire 70-80 kilomètres dans la journée avec des chevaux frais, parce qu'il en changeait tous les soirs, alors que moi je devais ménager ma monture et trouver des chemins praticables. Donc quand je voyais une de ses étapes sur son livre, hein, puisqu'il a tenu un journal de voyage que je suivais, moi j'en faisais trois. Et alors... Alors, pour être honnête avec vos auditeurs, il fuit aussi ce qu'il appelle ses épines domestiques, ce qui n'était évidemment pas du tout mon cas. Mais de manière un peu plus large, il avait passé 10 ans dans sa tour à écrire la première mouture des essais, et donc il avait envie de sortir un peu. Et aussi, il vivait en une époque troublée, où il y avait les guerres civiles, les guerres de religion et la peste. Et il avait envie d'un peu mieux comprendre ce qui se passait. C'est aussi pour ça qu'il va en Allemagne, c'est pour rencontrer les protestants, discuter avec les Zwingliens, les calvinistes, les luthériens, rapporter tout ça au pape. Donc c'est aussi un voyage d'investigation quasiment politique sur l'état du monde en un temps donné. Et c'est aussi ça que j'avais envie de faire, en me coupant totalement des médias nationaux et en ne suivant de l'actualité que ce que les gens allaient m'en dire et en comparant à mon retour. Et donc en ayant une perception, certes plus parcellaire, mais aussi plus profonde de la manière dont on vit aujourd'hui en 2021.
Mais avant de partir, dans quel état d'esprit étiez-vous? D'abord, vous vous êtes préparé. Hein. C'est pas une lubie, hein. Plus de 6 mois de préparation. Vous saviez monter à cheval, mais vous dites que vous avez appris à démonter, en quelque sorte.
Oui,
vous avez désappris le cheval. Dans quel état d'esprit étiez-vous?
J'étais un peu dans l'état d'esprit de Montaigne qui dit « je sais ce que je fuis », ça c'est très clair, mais je ne sais pas ce que je cherche. Et donc je ne savais pas très bien où j'allais et ce qui se passerait, mais j'avais envie de tenter cette aventure-là.
Ouais. Vous n'étiez même pas sûr d'arriver. Vous dites « j'estime mes chances quasiment nulles d'arriver avec mon cheval à Rome ».
En tout cas, je ne pouvais pas me mettre dans l'état d'esprit où il fallait arriver en novembre à Rome. Parce que là, j'aurais fait des rétro-planning, tout calculé pour arriver à l'heure, et ça se serait transformé en course sportive, et c'était pas du tout le but du jeu. Donc quand ma jument était blessée et que je devais rester une semaine, 15 jours dans les Vosges pour qu'elle se rétablisse, bon, c'est comme ça, et finalement j'ai fait des choses formidables dans les Vosges, j'ai été visiter justement les différentes religions à Mulhouse, j'ai participé à des transhumances au Ballon d'Alsace, et c'était super aussi d'avoir ce temps de repos ou de convalescence avec elle. Et après, sur la préparation, effectivement, j'étais un peu cavalier, mais j'avais des souvenirs de manège, d'adolescence, j'étais pas un grand cavalier. Et au fond, rétrospectivement, je dis que j'étais pas un cavalier du tout, parce que j'étais un cavalier qui savait triturer la bouche de sa monture, mais c'est pas ça l'équitation. Et ce que j'ai dû, c'est d'abord désapprendre justement à triturer la bouche de ma monture. Je vais monter à longue, à la voix. Et j'ai appris aussi des techniques qui sont du travail manuel, donc de la maréchalerie pour pouvoir défaire et remettre un fer à cheval, de la bourrellerie pour pouvoir réparer une reine, le minimum des soins vétérinaires pour pouvoir faire une piqûre intramusculaire, de la cartographie, du matelotage pour savoir faire des nœuds, savoir bien attacher son cheval, savoir tendre une corde entre deux arbres, et puis énormément d'entraînement parce que ça vient avec l'expérience pour comprendre ce dont a besoin un cheval, comment il dort, comment il mange, pour commencer à communiquer avec lui parce qu'il vous donne des indications extrêmement précieuses et parfois des indications vitales sur un chemin qu'on peut prendre ou qu'on peut pas prendre parce qu'il voit ou il sent des choses que vos sens ne vous livrent pas en tant qu'être humain. Donc c'est Alors le voyage à cheval, c'est très libre. N'importe qui peut prendre un cheval et partir sur les routes. C'est comme le voilier. Il n'y a besoin d'aucun permis, d'aucune assurance, rien, ce qui fait partie du plaisir.
On a même le droit, sauf exception dans certaines villes, sauf arrêté, on a le droit de traverser toutes les villes. Finalement, il n'y a plus aucune réglementation. Vous dites, quand on est à cheval, on est hors les lois.
On est littéralement hors les lois, ce qui est assez miraculeux. En fait, les villes, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à traverser parce que on s'aperçoit sur le terrain que les villes ont été construites autour du cheval. Et donc, quand on traverse Limoges ou Florence, ça se passe extrêmement bien. Les voitures, la ville est un lieu quand même de vie. Et donc, les voitures roulent assez lentement, vous regardent, ça arrête, les piétons viennent vous parler, donc ça se passe bien. Une fois, j'ai attaché ma jument sur un anneau près d'une épicerie. Il restait un vieil anneau d'attache. Et la dame est sortie de sa boutique et a dit à son mari « Oh, regarde, je t'avais bien dit qu'il fallait le laisser au cas où. » Donc ça faisait 20 ans que cet anneau d'attache était là en attendant le cheval. Mais c'est une anecdote pour dire, on s'aperçoit concrètement qu'on a utilisé le cheval pendant 2000 ans, que la voiture au fond c'est assez récent.
Alors tout au long de votre chemin, vous rencontrez et puis aussi vous éprouvez le paysage. Là, on est vraiment sur le territoire, vous sentez les paysages changer instantanément. Ça vous frappe, dès votre passage du Périgord au Limousin. Instantanément, vous n'avez pas besoin de regarder votre carte, vous comprenez que vous avez changé de région et vous allez ressentir ça assez souvent sur votre parcours.
Il n'existe pas de transition d'une région à l'autre. On bascule brutalement. D'un coup, au détour d'un chemin, voilà le Berry et ses chaumes sans ombre, la Sologne et ses étangs, Fontainebleau et ses odeurs de résine, la Meuse et ses reflets fluorescents, la Bavière et ses clochers à bulbes sonnant dans les vallées, la Toscane et ses oliviers qui griffent la peau. Chaque fois, tout se décompose et se recompose. Les essences des arbres, les pierres des maisons, les cultures des champs, les accents des hommes, les sauces des plats. Quand on prend le temps de les parcourir, les régions déploient une cohérence charnelle, mettant en musique tous les sens. On tourne de quelques degrés le kaléidoscope européen, et à partir des mêmes éléments, se révèlent de nouvelles harmonies.
Extrait de votre livre, Gaspard Koenig, Notre vagabonde liberté, lu par Eric Oswald, livre paru aux éditions de l'Observatoire. Souvent, les ensembles régionaux vous ont littéralement sauté aux yeux,
et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai construit mon livre, c'est-à-dire que c'est des chapitres qui correspondent aux régions, non pas aux régions administratives, des régions qui n'ont pas forcément les mêmes dimensions, mais aux régions qui me sont apparues. Et non seulement elles me sont apparues, mais le soir, je demandais toujours à l'étape, quand j'arrivais chez les gens, chez mes hôtes, où suis-je ? Et on me répondait toujours avec un nom assez précis. On me disait, vous êtes dans le Berry, on me disait pas, vous êtes dans l'Indre. Mmh. On me disait, vous êtes en Sologne, on me répondait pas par le numéro de département et certainement pas par le nom de la grande région. Et donc, en fait, il faut juste demander aux gens où ils sont et apparaît la géographie réelle du territoire. Et c'est la même géographie que l'on voit. Enfin, c'est d'une cohérence extrême. Et j'ai effectivement eu une dizaine de fois pendant le voyage des moments où, sans trop savoir pourquoi, parce qu'on est un peu somnambulique quand on marche comme ça de manière très lente, très longue, très répétitive. Et tout d'un coup, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui a changé. Et ensuite, on post-rationalise, on dit, ah oui, ça, c'est l'architecture qui a changé. C'est peut-être une pierre différente, c'est une couleur, on est passé en bocage. Au début, on sait pas trop quoi. Et effectivement, on a changé, comme on disait, à l'époque, on a changé de pays et on voit ces ensembles qui restent extrêmement cohérents. On entend les accents. Une fois, je parlais à un paysan dans un village, un vieux paysan de plus de 80 ans, et puis j'entends rouler les R. Et je me dis, tiens, c'est nouveau. Ah bah oui, on est passé de la langue d'oc à la langue d'oyle. Et puis le soir, je regarde mes cartes. Ah oui, on est dans la Marche. Ah bah effectivement, la Marche, c'est la limite entre les deux régions. Donc vous voyez, tout ça apparaît de manière extrêmement concrète et c'est assez, au fond, rafraîchissant, rassurant de voir que l'histoire longue, comme disait Braudel, de notre pays, dans sa diversité, elle existe toujours et elle a survécu à la centralisation jacobine.
Alors, je précise que vous n'êtes pas passé uniquement par ces campagnes, ces chemins de traverse. Vous traversez des villes, des petites villes parfois désertées, à l'image de Thiviers, dont vous dressez un portrait assez triste, assez nostalgique. Et puis, vous passez aussi par des banlieues. La banlieue de Beauval, faut vous imaginer dans la banlieue, au pied des tours, avec des jeunes qui vous alpaguent. Et ça se passe plutôt bien, apparemment.
Ça se passe très bien. En fait, quand il y a de la vie, ça se passe bien avec le cheval. Le cheval, après tout, est un être vivant, il déclenche la vie, c'est normal. Et donc, la vie, elle est en forêt parce que là, ça grouille. Elle est moins dans les grandes plaines céréalières, où c'est vrai qu'on s'ennuie un peu.
Dans la Beauce, vous n'avez pas trop aimé.
Et voilà, bah, la Beauce, c'est difficile à, c'est là où la champagne pouilleuse, c'est des grandes plaines, il n'y a pas d'ombre, c'est un peu, c'est dur, et ça a été juste, c'est très artificialisé, justement, c'est très travaillé par l'homme. Quand on arrive dans les zones périurbaines, pavillonnaires, là, c'est dur aussi, là, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'herbe pour le cheval, et il n'y a personne qui vient à votre rencontre. Mais la banlieue, ça foisonne également. Et donc, effectivement, Beauval, tous les petits venaient descendre et regarder ce qui se passait. J'ai fait faire un peu des tours, d'ailleurs, sur mon cheval. J'imagine que c'est complètement illégal et qu'on crée des risques absolument gigantesques en termes d'assurance. Mais enfin, ça s'est très bien passé. Et après, je parlais... En plus, on était au moment de l'Aïd et c'était la sortie de la grande prière du matin. Donc, tout le monde était... se déambulait dans le quartier, donc il y avait beaucoup d'intérêt, de réactions, d'interactions, et effectivement ça s'est passé extrêmement bien, et les gens comprennent le sens du voyage, ils comprennent qu'on est vagabond, et ça c'est un vieil instinct anthropologique qui existe partout. Le vagabond avant c'était un statut, c'est d'ailleurs un statut légal, c'est qu'on a moins de 10 sous dans la poche je crois, et le vagabond il fait partie en fait de la société parce qu'il colporte des nouvelles, il va en rapporter d'autres, et il tisse du lien entre des univers qui sinon s'ignorent.
Votre jument Destinada était votre meilleur allié pour aller à la rencontre des gens, des rencontres qui ont nourri votre réflexion. Vous allez nous raconter votre traversée de la France et d'une partie de l'Europe à cheval. L'écrivain et philosophe Gaspard Koenig nous emmène par monts et par vaux sur les traces de Montaigne cet après-midi sur France Inter.
Je dévalais dans les ravines, dans les j'étais sauvage. Ma vitesse, c'est l'infini. Ma colère, c'est la tornade. Quelque chose dans le vent me dit qu'il est temps.
C'était Cheval de Feu, Arthur Ashe, sur France Inter, dans le temps d'un bivouac.
Quand un cheval est monté par un grand cavalier, le cheval donne à cet homme son cœur et sa confiance absolue. Le cheval a emmagasiné qu'avec cet individu-là, sur son dos, ça se passe toujours bien. À cet homme qui est sur son dos, de savoir ne jamais le trahir. Une des grandes joies de ma vie, un de mes grands souvenirs, je pars en forêt de Rambouillet, il y a très longtemps, avec une jument qui est morte ici d'ailleurs. Et nous partons, mon chien, dans la forêt de Rambouillet. La pluie tombe. Je ne connaissais pas très bien la forêt de Rambouillet. À cette époque, je venais de m'y installer. La pluie tombe sans arrêt et je suis perdu. Je regarde ma carte d'état-major et la pluie la détruit. C'est devenu un buvard sur lequel je ne lis plus rien. Donc notre errance est longue. Nous rentrons peut-être après 4 heures d'arrosage, le chien, le cheval et moi, nous sommes trempés et nous sommes retrouvés dans un grand box avec 60 cm de belle paille dorée. Oui. Un bien-être énorme s'en est suivi. J'ai décellé mon cheval et de concert, le chien, le cheval et l'homme, nous urinâmes ensemble. Et ce fut un des moments, c'est un moment de ma vie où je crois qu'en reboutonnant ma braguette, j'avais les larmes aux yeux.
Un amoureux des chevaux qui nous manque, l'inimitable Jean Rochefort au micro de l'ami Denis Chessou. Voilà qui doit évoquer quelques souvenirs à notre invité, l'écrivain et philosophe Gaspard Koenig, qui a traversé l'Europe à cheval pendant 5 mois sur les traces de Montaigne. Gaspard Koenig, je suis sûr que vous comprenez très bien ce que veut dire Jean Rochefort.
Ah mais je comprends tellement, j'en ai des frissons. Et effectivement, la question de la miction était totalement révélatrice des rapports que j'avais avec ma jument.
C'est-à-dire qui urine quand ?
Qui urine
et qui impulse quand. Le mouvement ?
Absolument, parce qu'il faut comprendre qu'un cheval, c'est une proie. Qu'un cheval a toujours peur et un cheval déteste être immobilisé. Et donc crottiner, ça va parce qu'on crottine en marchant. Mais en revanche, uriner, c'est très compliqué pour un cheval parce qu'on est immobile quand on urine. Et donc si un prédateur arrive, eh bien on est à sa merci. Il nous faut au moins quelques secondes pour repartir. Et donc, pendant les 2 premiers mois, ma jument n'urinait qu'en arrivant au box le soir. Elle se retenait toute la journée et au box, pouf, ça partait. Et puis, petit à petit, quand moi, je faisais une pause, elle se disait « Bon, ça va, il prend bien soin de moi », exactement ce que dit Jean Rochefort. Donc, elle m'accompagnait. Et puis, dans le dernier mois, quand nous traversions l'Italie, la situation s'est inversée. Et c'est ce que dit d'ailleurs Montaigne quand il parle des animaux, quand il parle très très bien des animaux dans les essais, et il dit « Je ne sais pas si finalement c'est moi qui joue avec mon chat ou mon chat qui joue avec moi. Ben » Moi, c'est ma jument qui a fini par me dresser, par impulser le mouvement. Et là, c'est elle qui s'arrêtait pour uriner, et moi qui me disais « Bon, ben, finalement, c'est un bon moment, je suis. » Et donc, c'est elle qui finalement finissait par prendre l'initiative. Et ça a correspondu également à la période où j'ai cessé de la tenir. Au début, le cheval, on l'attache à l'arbre. Et puis ensuite, quand je marchais, puisque la moitié du temps, je marchais à côté d'elle pour la soulager. Puis la moitié, j'étais en selle. Et quand je marchais, évidemment, je prenais les rênes à la main. Et au bout de quelques mois, j'ai cessé de prendre les rênes. J'ai glissé les rênes sous la selle et elle marchait à côté de moi. Et le midi, elle prenait son propre casse-croûte, libre. Et ça change beaucoup de choses. Et on était du coup deux compagnons qui avancions librement ensemble et non plus... un maître et un animal de compagnie.
C'est intéressant comment votre relation a évolué avec cette jument. D'ailleurs, vous le dites quand vous partez, vous la connaissez que depuis 6 mois. Vous avez l'impression de partir dans un voyage de noces, d'un mariage arrangé. Et finalement, petit à petit, par elle, vous vouliez pas trop anthropomorphiser ses sentiments. Vous étiez un peu dans la retenue. Et petit à petit, il y a quand même un vrai rapprochement qui s'opère. Il y a quelques passages qui sont vraiment très beaux. Notamment à un moment, vous vous retrouvez entre une glissière de sécurité, un talus. Vous êtes un peu perdu. Vous savez pas trop comment vous en sortir. Elle fait une figure que vous dites en manège. J'aurais eu un temps fou, des mois et des mois pour lui apprendre à faire cette espèce de demi-tour sur place. Elle le fait instinctivement. Et à la fin de cette journée, où vous avez aussi essuyé pas mal de pluie, je crois, vous dites « on se tombe dans les bras ». Et l'expression pour vous « on se tombe dans les bras », elle est tout à fait appropriée pour un cheval.
Ah oui, puisqu'on s'est vraiment enlacé pendant 10 minutes. C'était une journée avec énormément de tension, de pression, de difficultés. Et donc, on est resté 10 minutes vraiment à se rassurer l'un avec l'autre quand on est enfin arrivé à l'étape. Et là, c'est les moments où vous dites anthropomorphisation ou pas. Mais là, c'est clair. Quoi. Il se passe quelque chose et il y a une communication. Cette communication, Montaigne en parle. Il parle des idiomes communs que nous avons avec les animaux. Mais cet idiome, il se travaille. Et ce qu'il faut faire, je pense, qui est très important, c'est au début, il faut partir un peu sur un terrain neutre où, au fond, il y a une relation transactionnelle. Je lui procure la sécurité et la nourriture. Elle me procure le transport. Et petit à petit... les choses arrivent, elles arrivent d'elles-mêmes. Et c'est vrai qu'il y a un moment où je la siffle, elle me répond en hissant. C'est très émouvant. Mmh. Et la communication s'installe. Et voilà, on apprend petit à petit le langage l'un de l'autre. Mais le cheval reste un animal indépendant. Ça ne sera jamais un chien qui voue une fidélité à la vie, à la mort, à son maître. Le cheval, c'est un peu comme un chat, ça reste un animal autonome qui peut aussi repartir, vivre une autre vie si l'herbe est plus verte ailleurs, et c'est bien comme ça.
Avec toutefois, en Allemagne, un passage qui va vous faire culpabiliser pendant longtemps après. Hein. Vous devez passer un ruisselet, elle marque le pas, elle veut pas avancer, pourtant le ruisselet, vous vous dites, bon, on en a passé tellement, pourquoi aujourd'hui elle veut pas passer? Vous insistez, elle finit par passer, et elle a failli y passer.
Oui, on était à côté du Lech, qui est un grand fleuve qui remonte de Füssen à Augsbourg, que l'on suivait. Et c'était des tout petits chemins très compliqués. Et d'ailleurs, ce chemin s'est révélé impraticable, donc on a dû faire demi-tour. Et souvent, on tâtonne hein, quand on est comme ça sur les chemins avec un cheval. On fait beaucoup, on a beaucoup d'incidents, de détours. Et puis, elle veut pas avancer. Petit ruisselet, mais de 40 cm, enfin rien du tout. Je mets les jambes pour lui dire « vas-y ». Elle y va, et là, on s'aperçoit très vite que c'était un marécage, donc elle tombe jusqu'au cou. Moi, j'ai juste le temps de m'éjecter de la selle. Tout ça se passe en quelques secondes. J'ai le temps de remonter, un peu contusionné, mais sans blessure grave. Elle est toujours dans son marécage. Et là, il n'y avait pas de réseau, il n'y a rien. Enfin, vous êtes tout seul avec un cheval qui est en train de se débattre. Et qu'est-ce que vous faites? Ben, rien. Enfin, sauf l'encourager par la voix. Il dit, vas-y, 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 viens. Et alors, miraculeusement ou pas, je sais pas, elle a réussi à trouver de la terre moins meuble avec ses antérieurs. Elle a fini par se redresser, par sortir. Et là, je me suis dit, elle va partir. Elle n'est pas partie. Elle s'est arrêtée. C'est une jument très froide, hein, comme on dit, qu'on avait beaucoup désensibilisée au bruit, au danger, pendant le travail de préparation. Elle s'est arrêtée. Elle s'est calmée. J'ai rien fait. J'ai regardé. Elle est redescendue toute seule. Et on a repris la route. Alors, évidemment, après, à chaque fois qu'il y avait un ruisselet.
Ouais.
Je mettais pied à terre. Je passais en premier pour lui dire, tu vois, il n'y a pas de problème. Et ensuite, elle venait, c'était ma manière un peu de m'excuser parce que là, c'est moi qui n'ai pas compris ce qu'elle a voulu me dire. C'est moi qui ne l'ai pas écouté.
Ouais.
C'est moi qui n'ai pas compris l'idiome, le dialecte qu'elle mettait en place.
Ouais. Il y a d'ailleurs quand même un rapport au cheval beaucoup plus profond parce que Montaigne, même s'il s'est beaucoup intéressé à la relation homme-animal, pour lui, les chevaux, c'était des moyens de transport. Il en changeait une fois par jour, voire deux fois par jour. Il était beaucoup moins attaché à ses montures que vous.
Alors, il aimait néanmoins l'équitation en tant que telle, ce qui, à l'époque déjà, n'était pas très commun. C'est-à-dire, comme on l'a entendu dans ce texte, il aimait être, je le cite, le cul sur la selle. Et effectivement, ensuite, il a des grandes pages sur l'animal. Mais c'est vrai qu'il a pas beaucoup écrit sur son rapport au cheval, tout simplement parce que il en changeait tout le temps. Il y avait des gens qui vendaient des chevaux sur le bord des routes. Et ça permettait de galoper, d'avancer. Lui, il dit bien d'ailleurs dans ses essais qu'il n'a jamais sellé son cheval.
Ouais.
Et donc quand les gens me disent « Ah oui, tu voyageais à l'ancienne, lentement et tout ça », je dis « Non, pas du tout. En fait, la lenteur est une invention moderne. À l'époque, les gens voulaient aller vite avec la voiture de l'époque qui était le cheval. »
Vous voyagiez plus lentement qu'à l'ancienne. D'ailleurs, la plupart du temps, pour ménager votre monture, vous l'avez dit, vous marchez à côté du cheval. Vous auriez presque pu le faire à pied, hein, finalement, ce voyage. Votre démarche, Gaspard Koenig, n'est pas sans rappeler celle de l'écrivain Jacques Lacarrière, que vous citez à plusieurs reprises dans votre ouvrage, grand adepte de la marche. Il avait effectué une grande traversée de la France, des Vosges aux Corbières en 1971. Un périple qu'il a ensuite raconté dans Chemin faisant, 1000 km à pied à travers la France aujourd'hui. Le voici, Jacques Lacarrière, évoquant cette traversée en 2002 sur France Culture.
Je me suis quand même mis volontairement en état de dépendance, c'est-à-dire je n'ai rien emporté avec moi, par exemple. J'ai pas voulu dormir dehors, j'ai pas voulu être autonome, auquel cas j'aurais rencontré personne. Et c'est même l'aspect psychologique qui est plus fort que l'aspect pratique, parce que c'est pas très grave de dormir des quelques nuits sur des planchers ou ici ou là. C'est d'être en état de dépendance, d'avoir besoin des autres. C'est-à-dire que c'est un rapport qui a toujours existé pendant des siècles et qui aujourd'hui est complètement, évidemment, éradiqué par le monde moderne, où de plus en plus, dans les voyages qui sont individuels ou collectifs, tout est fait pour isoler le voyageur de l'ensemble. Il a tout. Maintenant, les camping-cars vous permettent de faire le tour de la Terre sans voir personne. Et moi, je voulais être au contraire tout le temps avec les autres. C'est comme ça que je les ai rencontrés. Et que j'ai eu des rencontres merveilleuses. Si je m'étais contenté de dormir tout seul dans un coin, je n'aurais pu faire qu'une sorte de récit d'ermite. Et je me suis vraiment lié parfois à des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer autrement. Un légionnaire en vadrouille, un sonneur de cloche. Mais c'est très passionnant, je me suis trouvé au cœur d'une France rurale en mutation. Et c'est drôle parce que les gens vous prennent comme témoin à ce moment-là. Ils vous disent des choses qu'ils n'auraient jamais dit à un journaliste ou à quelqu'un qui vient faire une enquête, par exemple. Parce qu'on est le compagnon d'un soir, parce qu'on ne demande rien, parce qu'on est là pour les écouter. Je sais que des gens m'ont dit des choses qu'ils n'auraient certainement pas dit du tout à un enquêteur officiel.
L'écrivain Jacques Lacarrière, en 2002, il y a beaucoup de réflexions que vous faites dans votre ouvrage, Gaspard Koenig.
Ah oui, il y a tellement de choses dans ce qu'on vient d'entendre de Lacarrière. Ce qui est très intéressant, c'est que quand il voyage en France à pied dans les années 70, personne ne le fait. Et donc, il n'y a pas de gîte pour marcheurs, on n'a jamais vu quelqu'un faire ça, on le prend pour un fou. Et du coup, effectivement, on vient à son aide et à sa rencontre. Je pense qu'aujourd'hui, quand on traverse la France à pied, ça se passe plus du tout comme ça. On dit, ah ben non, mais prenez le guide XY, vous allez là, c'est organisé, on peut vous donner un âne, enfin, tout est fait pour. Et effectivement, je me rappelle de passage du livre où il finit par dormir dans des préaux, sur des tables, parce qu'il n'y a pas d'hôtel, parce qu'il n'y a pas de maison d'hôte à l'époque. Et aujourd'hui, au fond, le voyage à cheval, c'est un peu le voyage de Jacques Lacarrière à pied. C'est-à-dire que, on n'est pas habitué à ça. Peut-être que dans 30 ans, il y aura de nouveau du voyage à cheval et des relais pour chevaux. Et du coup, ça sera beaucoup moins amusant, en fait. Ouais. Et comme on n'est pas habitué à ça, les gens, effectivement, viennent vous aider. Et moi, j'avais choisi, et c'est tout à fait ce qu'il dit sur la dépendance, j'ai choisi de voyager en semi-autonomie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voyagent à cheval. Il y en a beaucoup en France. Ils sont réunis dans une association auquel je suis maintenant membre, qui s'appelle l'Association des cavaliers au long cours. Et ils voyagent avec deux montures, avec un cheval de bas, qui transporte tout, c'est-à-dire des vraies tentes, de l'eau, des fils de clôture. Et donc, eux, ils peuvent passer 3 jours en autonomie à camper dans la forêt. Et moi, c'était pas mon intention. Donc, j'ai pris un seul cheval. J'ai pris des bagages extrêmement minimalistes. Oui. J'avais une tente, mais qui pesait 600 grammes. Donc, c'était vraiment en cas de désespoir. J'ai eu quelques fois. Et donc, effectivement, je devais constamment compter sur la générosité humaine. Oui. Et c'était un grand pari quand même quand je suis parti. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, au fond, ce pari est gagné et que j'ai été constamment accueilli comme un vagabond. Et c'est très juste ce que dit Lacarrière, c'est que quand on est vagabond, on est immédiatement sur un pied d'égalité. Donc, il n'y a pas toutes ces barrières sociales qu'un journaliste pourrait rencontrer parce qu'il arrive de la vie, il doit s'expliquer. En fait, il va passer 5 mois à avoir une conversation naturelle avec les gens. Et donc, cette espèce d'introduction pratique faisait qu'ensuite, j'étais immédiatement dans la vie des gens et de manière très intime, parce que le voyageur, le vagabond, ne pose aucun danger, aucune menace. Il repart le lendemain, on peut tout lui dire.
Vous allez nous raconter justement quelques-unes de ces rencontres. Nous poursuivons au pas et au petit trot nos pérégrinations sur les traces de Montaigne avec vous, Gaspard Koenig, dans le temps d'un bivouac.
Feed, don't fail me.
C'était Joy Crooks qui chantait Feet Don't Fail Me Now.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Si je parle diversement de moi, c'est que je me regarde diversement. Toutes les contrariétés s'y trouvent, selon quelques tours et en quelques façons. Timide, insolent. Chaste, luxurieux, bavard, taciturne, laborieux, délicat, ingénieux, hébété, chagrin, débonnaire, menteur, véritable, savant, ignorant, et libéral, et avare, et prodigue. Tout cela, je le vois en moi aucunement selon que je me vis. Et quiconque s'étudie bien attentivement trouve en soi, et même en son jugement même, cette volubilité et discordance. Je n'ai rien à dire de moi, entièrement, simplement et solidement, sans confusion et sans mélange, ni en un mot.
Un nouvel extrait des Essais de Montaigne, lu cette fois par Michel Piccoli. Gaspard Koenig, vous êtes parti sur les traces de Montaigne. Vous avez refait au plus près un parcours à travers l'Europe qu'il avait fait 440 ans plus tôt. Et vous avez fait de Montaigne votre compagnon de route. Que pensez-vous de cet autoportrait assez complexe qu'il dresse de lui? Quel voyageur était-il, Montaigne?
Surtout, ce qu'il nous dit, c'est que d'abord, dans ses livres, il se met en scène, non pas par égocentrisme, mais c'est parce qu'en découvrant un homme, on découvre l'humanité entière. Et c'est pour ça qu'il écrit les premiers essais. C'est que ce n'est pas justement un système définitif qu'il propose au lecteur, mais c'est un système qui est traversé des contradictions d'un homme. Et moi, je me suis astreint à ne pas m'astreindre, justement. Je me suis astreint à me laisser aller, y compris dans mes réflexions, dans mes jugements, à certaines intuitions qui ne sont pas forcément très substantielles, qui sont peut-être en contradiction avec d'autres choses que je pense, pour lesquelles je n'ai pas été recherché, la data, les articles académiques. Ouais. Mais c'est quand même ce que j'ai ressenti. Et au fond, ce que nous dit Montaigne, c'est que ce ressenti-là, eh ben, il a de la valeur en soi parce qu'il nous indique un cheminement personnel et que dans ce cheminement personnel, beaucoup de gens peuvent se retrouver.
Ouais. C'était un voyageur très ouvert. Hein. Vous dites qu'il parle de pratiques condamnées à son époque avec une curiosité bienveillante. Il écoute un peu tout le monde et même, il appelle les petits, ceux qui n'appartiennent pas à l'élite du moment, mais il dit que la conversation des petits est parfois plus intéressante et plus enrichissante que celle des grands philosophes de son époque.
Bien sûr, parce que d'abord, il est un peu en tant que philosophe sceptique, pyrrhonien, dans la suspension du jugement. Et donc, il faut comprendre ce que disent les gens. Donc, il va parler aux protestants, il va parler aux catholiques, et il ne cherche pas à avoir un avis définitif. Et il dit bien, il faut parler aux gens de ce qu'ils savent. Et donc, si on est face à un agriculteur, on va lui parler d'agriculture, et puis on va lui parler de sa vie. Et c'est là-dedans qu'on va trouver une richesse, au lieu d'aborder, je sais pas, des grands thèmes politiques, généraux, qui sont en fait beaucoup plus pauvres pour tout le monde. Et moi, ce que ça m'a appris, c'est à parler effectivement à tout le monde. Ouais. Je me rappelle par exemple d'un épisode assez frappant où j'ai été reçu un soir à dîner à Fontainebleau, parce que je m'arrêtais dans la forêt de Fontainebleau, par des gens plutôt urbains, animalistes, antispécistes, enfin très engagés dans la cause animale. Bon, qui avait un discours d'ailleurs intéressant, qui questionnait la manière dont je m'occupais de ma jument. Et le lendemain, j'étais reçu par des chasseurs à cour. Donc, tout ce que les autres, évidemment, détestaient. Si on les avait mis, eux, dans la même pièce, je pense qu'il y aurait eu du sang sur les murs. Ouais. Et les chasseurs à cour, qui étaient merveilleux, il y avait une espèce de grande tablée à l'ancienne, il y avait le maître de la ferme, parce que c'est des agriculteurs aujourd'hui qui font la chasse à cour, c'est plus quelque chose d'aristocratique, qui racontait ces histoires. Je voyais le soin qu'ils prenaient des animaux, le discours qu'ils avaient développé sur cette manière de faire de ce qu'ils appellent de la prédation naturelle, puisque c'est les chiens qui chassent, l'homme regarde. Bon, et donc, j'ai quelque part aussi suspendu mon jugement, essayé de comprendre les deux parties, trouver un intérêt dans les deux discours. Et sans anticiper mes propres conclusions, si tant est d'ailleurs qu'elles soient intéressantes, ce qui est intéressant, c'est pas les conclusions, c'est la complexité du raisonnement qui nous y mène. Je pense que c'est vraiment ce dont notre société a besoin aujourd'hui. C'est au lieu de tweeter, parce que là, évidemment, on va être immédiatement contre ou pour, et ça va être très violent, passer une soirée, des heures, des journées avec ces gens-là, et puis des gens qui vous viennent en aide, vous ne pouvez pas les juger. C'est pas possible psychologiquement. J'ai rencontré des gens qui étaient vraiment à l'extrême de l'extrême droite, mais qui me conduisaient chez le vétérinaire le matin, qui me rendaient des services extraordinaires. Et ben, j'ai aussi appris à les apprécier.
Oui, c'est vrai, vous faites preuve d'une très grande ouverture. Vous êtes aussi très souple, hein, parce que vous êtes capable de vous intégrer dans des soirées un peu communautaires où le joint tourne, et puis quelques jours après, vous êtes chez des bourgeois un peu vieille France, et vous leur avez, avez aussi beaucoup de tendresse pour eux. Et ça, on le retrouve chez Montaigne, cette ouverture. Ça fait vraiment un point commun. D'ailleurs, vous le dites, alors ça m'a amusé, mais là, vous forcez peut-être un peu le trait, mais vous dites que Montaigne, aujourd'hui, s'il revenait, alors il serait décolonialiste, animaliste, militant LGBT, ce serait un vrai gauchiste, écrivez-vous. Bon, là, vous forcez peut-être un peu le trait.
On a vu le trait, mais c'est vrai qu'il y a des passages dans Montaigne, notamment sur la colonisation à l'époque du Pérou et du Mexique, qui sont vraiment très lumineux sur les femmes et sur la cause animale aussi. Mais sur la manière de voyager, c'est vrai que Montaigne veut s'intégrer, c'est un caméléon, il veut s'intégrer à son environnement. Donc, quand il va à Augsbourg, il met le bonnet fourré que portent les gens d'Augsbourg pour faire comme eux. Quand il va en Italie, il fait encore plus fort puisqu'il apprend l'italien sur le tas. Alors là, j'avoue que j'ai pas été aussi fort que lui et qu'il finit même par écrire son journal directement en italien ou dans son italien. Quelqu'un qui invente toujours sa langue, donc il met un peu de l'italien, du latin, du gascon, et hop, ça passe. Et moi, je me suis astreint, par exemple, à ne jamais parler anglais. Ouais. Je parle anglais, évidemment, beaucoup mieux qu'allemand ou italien, mais j'ai souhaité bafouiller, m'expliquer avec des gestes, mais pour faire cet effort de m'intégrer à la culture de l'autre.
Alors, dans ce sillage de Montaigne, il y a aussi parfois des paysages, voire des constructions qui étaient déjà là à son époque et qui sont toujours là. Il y a un exemple frappant, moi, qui m'a marqué. Vous êtes dans la Meuse, au fond d'un jardin, il y a un vieux puits. Vous tombez sur un vieux puits que Montaigne, en son temps, a décrit. Sauf que lui, il l'a décrit comme la modernité en cours à l'œuvre.
Oui, alors c'était pas tout à fait le but du voyage, mais évidemment je pouvais pas m'empêcher de faire des petites recherches un peu archéologiques ou historiques et donc d'essayer de retrouver ce que décrit Montaigne dans les différentes villes sur les chemins. Et effectivement, ce puits, je l'ai trouvé vraiment par hasard en demandant aux gens, en essayant de comprendre. Alors est-ce que c'est le véritable puits? Je ne sais pas trop, mais enfin en tout cas c'est un puits, il n'y a pas de petite plaque, il faut aller vraiment aller le chercher, il faut quasiment s'immiscer dans une propriété privée, passer les ronces, les bosquets, et puis on trouve ce puits. Et sur le rapport à la technique, c'est ça qui est intéressant, parce que pour c'est un puits à double poulie, et pour Montaigne c'était une merveille de technologie. En fait, Montaigne adore la technologie, il adore la nature, mais il adore aussi la technologie. Et c'est pour ça que moi aussi, j'ai choisi de voyager, évidemment, avec très peu de connexions, mais je n'ai pas boudé les techniques de mon temps. Donc j'avais une tablette avec toutes mes cartes, j'avais une application qui me permettait de reconnaître les essences des arbres en prenant en photo leurs feuilles et en faisant de l'intelligence artificielle participative pour le coup. Donc je pense que ça c'est une bonne leçon de Montaigne, et un journaliste m'a demandé il voterait pour qui Montaigne aujourd'hui, et j'ai dit peut-être pas ultra-gauche, mais Montaigne serait pompidolien, c'est-à-dire à la fois cet amour du progrès de la technique et ce respect pour la culture et les traditions.
Là où Montaigne voit le puits du futur, je découvre les ruines d'un puits d'antan. Sur les traces du passé, je trouve l'appel de l'avenir, écrivez-vous. Alors chaque observation est l'occasion de réflexion. On l'a avec cette expérience assez intense que vous vivez. Vous croisez la route d'Olivier qui s'occupe avec son père d'une jumenterie et qui vous invite à participer à la transhumance de son troupeau de 20 chevaux qui pèsent au ballon d'Alsace et qui doivent redescendre.
Transhumance, le mot fait rêver. La réalité est à la hauteur. Avec 20 bêtes, on ne descend pas une montagne. On la dévale, trébuchant, courant, gueulant, moitié sur le chemin, moitié hors piste. À retenir ici un cheval qui s'éloigne, à en pousser là un autre qui a cru bon de s'arrêter pour brouter. Il faut ouvrir des portes, passer devant des vaches hagardes, traverser des routes en faisant de grands signes aux voitures. On crie pour appeler, pour avancer, surtout pour se faire plaisir. Les chevaux semblent aussi folâtres que nous. Il y en a de toutes les robes, de toutes les tailles, de toutes les complexions. Ils s'envoient des ruades, sautent sur les talus, explorent le sous-bois, hennissent pour appeler leurs copains égarés. On marche un peu au hasard, sans plus trop savoir si l'on guide le troupeau ou si l'on en fait partie. J'essaye de tenir le compte des chevaux, mais j'en trouve toujours un de plus ou un de moins. Je lâche un de mes deux otages qui a décidé de piquer un galop, vexé d'être tenu en longe quand tous ses camarades gambadent librement. Je panique, Olivier rigole. La transhumance est une pagaille. C'est ce qui fait son intérêt. Tout le monde dégringole en tas à la va comme je te pousse et tout le monde se retrouve en bas, des branches dans les crins et des éraflures sur les joues, épuisé et soulagé. Pas de fugueur, pas de blessé, pas de problème. Le miracle se renouvelle à chaque fois.
Une scène de transhumance que vous décrivez hein, dans votre livre. Vous dites à plusieurs reprises que vous aimez Jean Giono, il fallait bien que vous décriviez une scène de transhumance. On sent ce vrai plaisir hein, d'être au cœur de la nature, dans l'action. Vous aviez besoin de vous rapprocher de la nature avec ce voyage, Gaspard Koenig.
Oui, de la nature dans ce qu'elle a d'ailleurs de plus fou, de plus chaotique, de pagaille, comme je décris dans ce passage. Et on apprend aussi à moins se soucier de l'ordre au fond et de lâcher prise. Donc ouais. À se dire qu'on peut tout contrôler ni qu'on doit tout contrôler, que les chevaux vont vous suivre, ouais. qui vont être pucés, qui vont être étiquetés. On va laisser ça faire et puis ça va bien se passer.
Parce que de ce type d'expérience, vous tirez des conclusions et des réflexions sur un écosystème beaucoup moins naturel, celui de l'entreprise.
Mais oui, parce que l'entreprise aujourd'hui est organisée de manière encore extrêmement verticale, hiérarchique, subordonnée d'ailleurs dans le droit du travail. Et cette notion de pagaille là que je décris pendant la transhumance, c'est aussi l'idée de l'ordre spontané, l'idée que c'est à travers des échanges extrêmement libres, extrêmement naturels, extrêmement aléatoires que le meilleur peut naître et qu'au fond une forme d'organisation peut se créer et donc ça plaide beaucoup par exemple pour l'autogestion.
Ouais. Alors toutes les discussions que vous avez eues avec les gens que vous rencontriez vous ont beaucoup travaillé, hein, elles étaient riches. Vous aviez une petite appréhension avant de passer à la frontière et de vous retrouver en Allemagne et en Italie parce que la barrière de la langue allait rendre les discussions peut-être moins faciles. Vous entrevoyez quelques moments de solitude et vous n'aviez pas complètement tort. Vous allez nous raconter comment s'est passé votre voyage en Allemagne et en Italie dans un instant, Gaspard Koenig.
Tandis que je frappe le sol, je frappe le ciel de ma voix. T'as ce semi, t'as ce semi, t'as ce semi, t'as ce semi, ce petit ennemi.
C'était Yeli Yeli qui chantait Tassassoumi dans le temps d'un bivouac et la programmation musicale de cette émission est signée Valentine Chédebois.
Bien nous voilà, même équipage, même homme, même jument. Alors évidemment, dans une saison différente, ça y est, on est en automne. On peut voir les feuilles mortes, je n'invente rien. On est sous la pluie une grande partie de la journée. Et puis dans un pays différent aussi, puisque
Nous terminons notre traversée de l'Allemagne, enfin du sud de l'Allemagne, c'est-à-dire de Constance à Augsbourg, en passant par Füssen, le Bade-Württemberg et la Bavière.
Gaspard Koenig, sur votre cheval, vous veniez d'arriver donc en Bavière, en Allemagne. Décrivez-nous un peu les lieux, ça a l'air superbe la Bavière.
La Bavière, c'est magnifique et c'est aussi très dynamique. Et les Allemands ont créé ce Mittelstand assez extraordinaire qui allie une grande prospérité économique parce que les PME sont au cœur des territoires et en même temps un respect des traditions qui fait que les gens continuent à parler le dialecte local, y compris les jeunes. Et là où, quand on parle de diversité de culture, ce qui m'a beaucoup frappé en Allemagne, c'est que je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de chemin de randonnée indiqué. Je trouvais nulle part d'application qui donne vraiment des itinéraires. Et je me suis dit, ça va être le bazar. En plus, il y avait de la montagne. Je me suis dit, comment je vais faire? Et en fait, j'ai compris qu'il n'y a pas de chemin indiqué parce que tous les chemins sont ouverts en Allemagne. Mmh. Et tous les chemins sont ouverts parce que dans ce pays ordo-libéral, il est indiqué dans la Constitution que Eigentum verpflichtet, la propriété oblige. La propriété donne aussi des devoirs. Et un de ces devoirs, c'est d'entretenir et d'ouvrir les chemins au passage. Et donc, en fait, vous vous promenez dans un pays libre où l'on peut vagabonder partout. Et ça change complètement votre rapport au territoire.
Ce qui ne sera pas du tout le cas en Italie. Là, c'est l'inverse. Vous avez, à part les chemins de pèlerinage, vous avez beaucoup de mal à pouvoir accéder aux sentiers.
Oui, alors l'Italie est très barricadée, contrairement à peut-être aux préjugés qu'on peut en avoir. Très, le moindre champ d'olivier est grillagé. Et je dois dire que je n'ai pas trop trouvé la chaleur italienne que l'on décrit dans les films de Fellini. J'ai plutôt trouvé un pays, alors c'était la Toscane évidemment, c'est quand même plutôt le nord, mais un pays qui joue beaucoup à être lui-même. Et donc, bien sûr, tout est très bien rénové, tout est très joli, il y a toute cette mise en scène. Mais je n'ai jamais été invité à dîner chez une famille toscane. Alors, évidemment, on me donnait à manger, je payais pour tout, pour le foin, pour les pâtes, pour tout ça. C'était très transactionnel, mais sans aucune véritable hospitalité. Et ça s'explique par l'histoire de la Toscane, ça s'explique aussi par son expérience, je pense, du tourisme, qui fait qu'on n'arrive plus à considérer le voyageur comme un voyageur. Le voyageur est toujours un touriste. Et on voit quelque part les dégâts que cette mise en scène de soi peut créer.
Alors, vous êtes arrivé au bout de votre parcours. Il n'y a pas vraiment de suspense, on peut le dire, vous le dites dès le début de votre ouvrage. Vous êtes arrivé à Rome. Dans quel état êtes-vous arrivé? Est-ce que vous, vu que vous avez énormément réfléchi tout au long de ce parcours, rencontré, qu'est-ce qui vous a fait évoluer? Est-ce que sur certains points, vous avez changé d'avis après ce voyage?
Je pense que j'ai beaucoup changé d'avis. C'est d'ailleurs le but du voyage. Montaigne dit bien que si on ne s'est pas changé soi-même, c'est qu'on n'a pas vraiment voyagé. Je pense que la question des racines, des terroirs, elle est très importante. Elle n'est pas incompatible du tout avec une forme de libéralisation des échanges, mais elle est au cœur de la vie des gens. Que la reconquête du territoire, l'aménagement du territoire est quelque chose qu'on a complètement raté. Aujourd'hui, vous avez 3 millions de logements vides qui sont les logements de centre-ville parce qu'on a construit des barrières pavillonnaires autour qui n'ont aucun intérêt et qui seront en plus très rapidement obsolètes. Après, ce qui est drôle, c'est que quand on revient, on retrouve très vite ses chaussons, ses habitudes et on devient tout de suite le petit urbain. D'ailleurs, le soir de mon arrivée, j'ai été invité, donc ma jument était logée à l'ambassade de France près du Saint-Siège. Et j'étais invité à un dîner chez l'ambassadrice et donc j'ai été chez un couturier qui m'a refait un habit de ville des pieds à la tête et puis tout d'un coup, pouf, je retrouvais mes habitudes urbaines, mondaines. Mais je garde néanmoins la clé de ce que Montaigne appelait son arrière-boutique. Je me suis organisé un espace près de ma jument où je peux retrouver cette simplicité sans laquelle il me serait difficile de vivre aujourd'hui.
Et comment va-t-elle votre jument Destinada quand vous retournez la voir aujourd'hui au pré en Normandie?
Bah d'abord, elle a repris du poids comme moi. Donc physiquement, elle va très bien, mais je vous avoue que la dernière fois que j'ai été la voir, j'ai mis 30 minutes à l'attraper dans son pré parce qu'elle n'a aucune envie de repartir à Rome.
Ah oui. Quand elle vous voit arriver, elle ne court pas vers vous.
Ah pas du tout. Alors quand elle est avec son troupeau, non, parce qu'elle est beaucoup mieux au milieu de ses congénères. Et c'est très bien comme ça. Et quand après je la reprends et qu'on part, elle redevient celle qu'elle a toujours été et on retrouve, je pense, cette complicité. Mais un cheval vous rappelle toujours qu'il est indépendant, qu'il est autonome, qu'il n'a pas besoin de vous. Et ça, c'est aussi une leçon de vie.
Merci Gaspard Koenig. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Notre vagabonde liberté à cheval sur les traces de Montaigne. Il est paru aux éditions de l'Observatoire. Un grand merci à vous.
Merci.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast avec l'appli France Inter. Merci pour vos messages sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac ou sur la page de l'émission sur franceinter.fr. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.